France Culture.
Minuit. Un froid glacial. Un ou deux couples pressent le pas sur le trottoir. Les étoiles au loin. Au chaud, mes livres, ma solitude. J'écris un scénario de BD, comme d'habitude. La chaise en face de moi craque bruyamment, comme si on venait de s'y asseoir. Et oui, le bois est vieux, fatigué, il gémit pour un rien. Mais cette ombre, alors, par où est-il entré? Peut-être un fantôme. Il passe sa main sur son front jeune et déjà raviné. Il sourit. J'ai eu de la chance de tomber ici. Je suppose que je suis sur Terre. Son regard me transperce, mais il est amical. Je ressens une grande paix. Des livres, des arcs indigènes, un Saturne 5, encore des livres. Cortazar, Salgari, quel est ton métier? Scénariste. Scénariste de bande dessinée. Et toi? Question difficile, je pourrais te donner des centaines de noms, tous à moi et... je ne mentirai pas, mais le plus commode pour toi, c'est celui que m'a donné un cosmophilosophe du 22e siècle. Il m'a surnommé l'Éternaute. Oui, l'Éternaute. Pour résumer en un mot ma condition de voyageur de l'éternité. Ma triste et solitaire condition de pèlerin des siècles. Je sais ce que tu penses, mais laisse-moi te raconter mon histoire. Écoute.
El Eternauta. Historia d'une historieta mitica. L'Éternaute. Histoire d'une bande dessinée mythique. Épisode 1. L'Éternaute et son auteur. Andrea Cohen, Frank Lilan.
J'écoutais. Je passais la nuit à l'écouter. Et en effet, quand l'Éternaute se tut, tout était clair. Si clair que je fus empli de terreur et de compassion pour lui. Pour moi. Pour toi, lecteur. Mais n'anticipons pas, il faut connaître l'histoire de l'Éternaute telle qu'il me l'a contée.
C'était quelque chose de totalement stupéfiant. On avait un auteur qui ne travaillait pas à la lisibilité, qui travaillait par des grosses taches. Et donc, au départ, moi, j'ai vu ça comme une sorte de bande dessinée assez expérimentale.
Héroïne des Jas.
Et c'est beaucoup plus tard que j'ai su que c'était une deuxième version, en plus inachevée, d'une œuvre qui était, qui en tout cas en Argentine, avait un statut vraiment à part.
Mon histoire avec l'Éternaute est celle d'une bande dessinée que j'ai lue des années après sa parution.
Miguel
était sorti avant ma naissance. Je ne l'ai donc pas lu à l'époque de sa sortie. Lorsque je l'ai lu, J'ai été vraiment intéressé par cette bande dessinée qui parlait d'une situation extraordinaire arrivée à des gens ordinaires, à moi, à ma ville, à ma province, parce que cela s'est passé d'abord dans les banlieues et ensuite dans la capitale, Buenos Aires.
Donc il y a une première version qui débute en 1957, donc qui va aller de 57 à 59, qui est scénarisée par Héctor Germano Estegielt, dessinée par Francisco Solano López. Il devait livrer 3 planches par semaine pour la revue Hora Cero Semanal. On a un récit qui est vraiment dans les codes de la bande dessinée de l'époque. Alors ce qui change effectivement, c'est que ça se situe à Buenos Aires, c'est pas un décor exotique pour les habitants de la ville. On n'est pas dans les plaines de l'Ouest, par exemple. Et on a un dessin qui tente d'imiter la réalité, où on a des personnages qui sont portraiturés, avec des visages extrêmement détaillés. Et puis on a une seconde version qui apparaît en 69, donc 10 ans après la fin de la publication de la première, qui naît dans un contexte complètement différent, puisque ça apparaît dans Gente, qui est un magazine qui est un peu le Paris Match argentin, si on veut, et qui a été entièrement redessiné. Donc c'est un cas assez étonnant et assez unique pour l'époque de remake. Donc c'est pas une suite, mais il s'agissait de refaire la même chose, mais avec un autre dessinateur, avec une sensibilité totalement différente, voire antithétique, qui est Alberto Breccia. Et Breccia est connu pour être quelqu'un qui n'a, à partir de la fin des années 50, il n'a pas cessé d'expérimenter sur le mode d'expression qu'est la bande dessinée, à jouer sur les limites de la représentation.
Así que me atrapó esa aventura, es muy larga, era muy larga para mí, pero yo ese libro me lo devoré.
Je me suis donc laissé entraîner dans cette aventure. Oui, c'était une très longue aventure. Et j'ai été pris par l'histoire et je l'ai lu d'une traite. Puis, j'ai eu une approche plus professionnelle parce que j'ai travaillé dans la maison d'édition qui a réédité la première version de l'Éternaute en 1975. Et j'ai assisté aux derniers jours d'Hector Osterheld.
L'Éternaute a 3 versions. Une première version qui date de 1957. Et c'est la première, le premier scénario qui a fait Osterheld avec cette histoire d'aventure qui est située, qui se passe en Buenos Aires. Donc il y a une invasion.
Laura Caravaggio.
Il y a plein de choses qui se passent, il y a une menace extérieure et ça se passe à Buenos Aires. Donc il travaille avec Solano López, qui est un dessinateur extraordinaire et vraiment super important dans l'histoire de la BD argentine. Dans un contexte d'âge d'or, on pourrait dire, de la bande dessinée argentine. Donc ça, c'est une longue version qui a été publiée en série pendant 2 ans. Je pense que c'était 105 semaines. Et donc, une histoire à suivre, que le public suivait avec passion. Et donc, voilà, une première version, pas très politisée, a priori. Il y a des métaphores, c'est très symbolique, mais il n'y a pas une position politique très marquée dans cette première version. Ensuite, 10 ans après, Osterheld propose à Breccia, Alberto Breccia, de faire une deuxième version de l'Éternaute. Et là, c'est un autre contexte. C'est qu'il se dit, là, il y a l'invasion, elle est réelle. C'est-à-dire que ça craint, il y a des choses qui se passent dans le pays. Et il décide de commencer une nouvelle version. Et là, on voit dans cette version de 1969 cette position. Donc, il y a des changements légers dans le scénario, mais l'histoire, elle reste la même. Donc, c'est l'histoire d'une invasion.
La première version nous relate une invasion extraterrestre et on sait, même s'ils ne sont jamais montrés, qu'il y a des forces plus puissantes qui les dirigent. Et dans la seconde version, celle de 69, dessinée par Alberto Breccia, il y a un élément de scénario qui n'apparaissait pas dans la première version, qui est qu'il y a eu un deal entre les forces occidentales et les extraterrestres qui leur ont cédé l'Amérique latine. Et évidemment, tout ça résonne avec le climat politique qui est celui de l'époque. Alors il faut faire attention à la surinterprétation. Je pense que la première version, je ne suis pas certain que les lecteurs de l'époque avaient vu là une forme de métaphore de l'oppression. Elle est publiée au moment où l'Argentine passe d'une dictature vers un président démocratiquement élu. La seconde, c'est une seconde junte militaire qui s'est installée en Argentine. Et on peut difficilement ne pas voir dans le climat oppressant qui est celui de cette bande dessinée le reflet de l'Argentine de l'époque.
Les grands pays ne peuvent pas nous abandonner ainsi. En quoi ça t'étonne, Juan? Les grands pays nous ont toujours tenus pieds et poings liés. Les pays qui nous exploitent, les grandes multinationales, étaient déjà nos envahisseurs. Leur neige mortelle, c'était la misère, le retard, nos petits égoïsmes personnels manipulés de l'extérieur. L'invasion est de notre faute, Juan. C'est parce que nous sommes faibles, mous. C'est pour cela que l'envahisseur nous a choisis.
La première version avait connu vraiment en Argentine un succès énorme. C'était publié, si je ne me trompe pas, dans les 57-58. Et c'était devenu vraiment quelque chose de très populaire. Donc il y a ce magazine.
Latino Imparato.
Qui s'appelait Gente. Qui était un peu un Paris Match, c'est même chose, même contenu, donc des têtes couronnées, des acteurs, des chanteurs, etc., place à la photo, hein, qui contacte Estrel et lui demande de publier une bande dessinée, la bande dessinée, l'Éternaute. Et visiblement, il s'agissait un peu de profiter de la notoriété de la bande dessinée et de ses auteurs. Brecha, quelques années plus tard, il avait connu vraiment ses moments de gloire. Et donc, il commande à Oesterheld une nouvelle version. C'était la même histoire. Le problème, c'est que justement, la direction de Gente, c'était pas vraiment orienté à gauche. Les contenus non plus. Les moments étaient un moment assez délicat d'un point de vue politique. Avec l'énième dictateur, la mainmise qui était évidente des multinationales américaines sur l'économie du pays. Donc c'était vraiment tendu. Et Oesterheld, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à introduire ses thèmes dans la bande dessinée. La publication était, je crois que c'était 3 pages par semaine. Et en effet, si vous prenez le livre, vous voyez qu'il y a un rythme de ces 3 pages dans lesquelles les récits originaux se déroulent plus ou moins dans la même temporalité. Et à un moment, qu'est-ce qu'il y a en regardant l'histoire? Tout, paf, est condensé. Vous voyez que dans une même page, il y a des gros pavés de textes, il y a des sauts narratif assez évident. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était passé que la direction n'était pas contente du tout, sans les dire. Et des lecteurs ont commencé à être publiés dans la revue en attaquant la forme et pas le contenu, en disant « les dessins de Brecha, c'est imbuvable, on n'y comprend rien, les personnages sont tous pareils, on ne comprend plus qui est qui, il n'est pas capable de dessiner correctement une femme, etc. etc. » etc. Et au bout d'une ou deux semaines de ces lettres, on reconnaît bien la main du directeur derrière ces lettres. On ne dit pas un mot sur les scénarios. Et donc, il demande d'arrêter.
Alors, il y aura encore une suite en 76, où là, l'opinion d'Oesterheld est beaucoup plus lisible. Il y aura d'ailleurs des conflits entre Solano Lopez, donc le dessinateur qui a fait cette suite, et Oesterheld, notamment à travers l'idée que le héros, en tout cas les personnages, poursuivent un but. Certes, ils sont solidaires, mais il faut être prêt au sacrifice. Et il y a une élite qui dirige le groupe et qui peut, le cas échéant, considérer que la raison suprême amène à peut-être sacrifier certaines personnes qui sont dans votre groupe. Ça sera la pomme de discorde entre le dessinateur et le scénariste.
Oesterheld, militant politique montonero, c'est-à-dire l'aile gauche du mouvement péroniste, qui passe en clandestinité. Oesterheld était le responsable de la communication des Montoneros, qui passe dans la clandestinité, qui envoie au dessinateur Solano les scénarios par bout, en les laissant la nuit dans les bureaux de la maison d'édition, en se pas faisant voir. Donc on était déjà dans une période assez tendue. Et Westerwelle, dans cette histoire, qui reprend la fin de l'Éternaute et se situe dans une des différentes dimensions dans lesquelles les personnages de l'Éternaute est amené à évoluer, là, c'est vraiment vraiment de la propagande politique montonnaire.
J'étais frappée par le fait qu'à chaque fois qu'il arrivait, il était habillé avec des vêtements différents. Des chapeaux, parfois avec une barbe, parfois sans barbe.
Et pour sobre todas las cosas, dejaba entre su escritorio y la kitchenette, ¿no? Y la cocinita del café, dejaba todo un sendero de barro seco.
Et surtout, après son passage, il restait des traces de boue séchée entre son bureau et la kitchenette.
Et ce barro seco, je me disais, pourquoi cet homme laissait ce sendero de barro seco?
Je me disais, pourquoi reste-t-il toujours ces traces de boue sèche après le passage de cet homme?
Años después me di cuenta que era porque el tipo andaba todo el tiempo.
Des années plus tard, j'ai compris que c'était parce qu'il était toujours en fuite. Il était dans la clandestinité. Un jour à droite, un jour à gauche. Et un jour, il n'est plus venu.
J'aime énormément le début du récit, qui propose déjà un récit dans le récit, puisque c'est le moment où Juan Salvo, l'éternaute, apparaît au personnage narrateur, qui est potentiellement Hector Oesterheld.
Léo Henry.
Et dit qu'il va lui raconter l'histoire qu'on va finir par lire. Et ça permet de créer directement un enchâssement et surtout un effet de réel, qui est renforcé ensuite par le fait que tous les décors dans lesquels se déroule cette invasion extraterrestre est familier des lecteurs de ce moment-là, et donc se retrouve dans une histoire d'horreur de science-fiction à un endroit extrêmement extrêmement familier. Donc on est directement dans la maison des gens, on est dans la maison de la personne qui raconte l'histoire. Et ça boucle avec la fin de façon particulièrement satisfaisante et inquiétante.
Le tout début de l'histoire, c'est ce héros qui va être le protagoniste de cette aventure, de cette longue aventure de résistance contre cette invasion qu'on va découvrir qui est une invasion extraterrestre. Lui, il va rendre visite au tout début au scénariste. Et ce personnage va commencer à raconter cette histoire de l'invasion. Ce personnage, Juan Salvo, c'est l'Éternaute. Donc au début, il y a un phénomène très étrange qui arrive, c'est une neige qui tue. Donc c'est comme ça qu'il va se déclencher l'aventure, c'est-à-dire que le personnage principal qui s'appelle Juan Salvo, c'est la circonstance qui va faire qu'il devienne un héros. Comme par hasard, lui et ses amis qui jouaient aux cartes, à ce moment-là, au moment où la neige mortelle commence, ils ne meurent pas, ils ont toutes les fenêtres fermées, donc ils ont épargné de ça. Et c'est cet événement-là qui est déclencheur de se devenir héros de ce personnage principal.
La maigre épaisseur de la porte est tout ce qui me sépare de la neige mortelle. L'ouvrir, c'est plonger dans les flocons, dans la mort instantanée. L'épaisseur du tissu. Et si une couture lâchée ou bien le filtre.
Ils vont se dire, ah oui, la neige qui tue, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un phénomène naturel, une catastrophe naturelle. Non, c'est un instrument, c'est une arme des dominateurs. Mais ensuite, il y a ces énormes insectes qui vont apparaître en scène. On va croire que c'est eux le méchant, mais non, ils sont contrôlés par une intelligence supérieure. Et donc, on peut faire un parallèle avec la colonisation, mais aussi avec l'extermination des peuples originaires en Argentine. C'est-à-dire, c'est pas juste aller tuer, c'est pas juste une question de violence physique ou des violences par les armes. Il y a tout un tas de stratégies beaucoup plus subtiles, hein, des dominations qu'on va voir se déployer tout au long de cette longue histoire très chargée de textes avec des dessins magnifique de Solano López. Ensuite, on va voir leurs manos, les mains, qui sont des personnages d'apparence humaine, qui vont avoir des mains avec énormément de doigts. Ils ont tout un tas de doigts qui se déploient parce qu'ils ont designé pour contrôler des machines qui ont énormément de boutons. On voit croire que c'est eux, que c'est leurs manos, que c'est eux les vrais méchants, mais non, pas du tout. Leurs manos, ils ont contrôlé aussi par cette intelligence supérieure.
En fait, il s'agit de représenter des créatures effrayantes. La peur, elle fonctionne beaucoup sur ce qui n'est pas montré, sur ce qu'on s'attend à voir, mais qu'on ne nous montre pas. Et donc, en bande dessinée, c'est très compliqué, parce que la bande dessinée, c'est un flux continu de dessins. Donc, comment faire pour représenter ce qui ne peut pas être montré dans ce mode d'expression-là? Donc, il y a les hommes robots, donc qui sont des terriens sur lesquels on a greffé un collier. Donc, ils sont commandés à distance, comme les scarabées, d'ailleurs. On a les gurbos, qui sont d'énormes monstres qui défoncent le sol. Ce sont des créatures, monolithiques, absolument effrayantes. Et puis, on a effectivement los manos, les mains, qui sont des extraterrestres, mais qui sont un peuple qui a été colonisé par ceux qui détiennent véritablement le pouvoir, los ellos, mais qu'on ne verra jamais, qui ne sont pas représentés. Et donc, ces mains sont en fait, au départ, c'est des personnages assez effrayants qui ont des mains, je ne sais pas combien de dizaines de doigts. Mais en fait, ce sont des esclaves. Ils ont une glande qui a été greffée artificiellement. Et donc, à partir du moment où ils ont une émotion trop forte, ils sont promis à une mort certaine. Et donc, les héros comprennent ça. Et donc, ce qui est très, très intéressant et qui est typique des scénarios d'Oeste Hiel, c'est que, en fait, l'ennemi n'en est pas vraiment un. Même à la fin de la version de Solano López, il y a d'ailleurs un main qui va sauver les héros à un moment donné et même essayer d'entrer en contact avec eux. Ça sera malheureusement pas possible.
Ya digamos en peripecias del Eternauta, esta historia de las razas subyugadas por los sellos.
José Muñoz.
Que los sellos les habían instalado.
Dans la bande dessinée L'Eternaute, il y a des histoires d'espèces extraterrestres dominées par les E. Les E avaient installé à ceux qu'ils avaient vaincus et asservis, comme les mains, par exemple.
Les mains les avaient installé un aparatito en la nuca que
un petit appareil à la nuque qui détectait le moindre mouvement de rébellion.
Que daba al organismo que trataba de rebelarse, habían sido derrotados y esclavizados.
Nous passons d'une partie de Truquot dans une maison entre 4 ou 5 amis.
Estábamos pasando de una partida de truco, una casa ahí en San
Isidro. À une sorte de sabbat d'extraterrestre.
A una especie de aquelarre extraterrestre con los malvados máximos que no se
avec des méchants qui ne se montrent jamais, qu'on appelle les E,
et
toute une série d'espèces asservies, comme les mains ou les scarabées.
Como si especies esclavizadas, la de los manos. Por ejemplo, cuando los manos empiezan a percibir al agonizar que están perdiendo el miedo a tener miedo que
quand
los,
les mains vont mourir,
que los consumió
ils commencent à prendre peur et ils se mettent à chanter leur chanson d'adieu au monde.
Y empiezan a cantar sus canciones de despedida al mundo que los está saludando porque se van. Cuando empiezan a hablar de la belleza y de las cosas que tienen alrededor, hay una escena en una cocinita ahí. No sé si es la cocinita donde encuentran a los pollitos vivos.
Il y a une scène dans une petite cuisine. C'est un main qui est en train d'agoniser.
Hay un mano que está agonizando porque ya el aparato que tiene.
Il contemple une cafetière napolitaine.
Está segregando el veneno que lo matará.
Et il parle de l'élégance suprême de cet objet.
Y está contemplando una cafetera napolitana y habla de la elegancia suprema de esa. Dice, admira el talento artístico del lugar que han tratado de colonizar porque hay objetos.
Il admire le talent artistique des humains de l'endroit qu'ils essayent de coloniser. Parce que ces objets lui provoquent presque une hypnose de séduction par leur beauté. Quand tu penses à cette cafetière napolitaine de l'époque, que tu pouvais retourner, elle avait le bec vers le haut et vers le bas, c'était une sculpture ou deux sculptures différentes en train de tourner. Autrement dit, nous, en tant qu'artistes, contemplons la beauté cachée dans les formes qui nous entourent.
Ahí estaba la visión de Westerge con su imaginación narrativa que la iba apoyando en el paisaje.
Et là, il y a dans l'imagination narrative d'Osterhel une vision qui l'aidait à fixer le paysage environnant, entre le paysage externe et le paysage psychologique des personnages. La main se réveille. Je n'en ai pas pour longtemps, ami terrien, et ne t'étonne pas que je t'appelle ainsi. Je suis hors combat. La glande de la terreur que m'ont greffée les E travaille déjà. Je mourrai sous peu. Les E ? Qui sont les E ? Ceux qui ont lancé l'invasion de la terre, les maîtres de tout. Nous, les mains, nous sommes leurs esclaves, leurs forces de choc. Tout comme les scarabées et les gurbos. Pour qu'on ne les trahisse pas, ils nous ont greffé une glande qui sécrète du poison. À la première frayeur, la peur nous tue avant qu'on puisse se rebeller. La peur que j'ai eue quand tu m'as attaqué a activé la glande, terrien. Je meurs. La main nous parle de sa planète natale, un monde de glaciers avec deux soleils jumeaux où virevoltent les ombres et les arcs-en-ciel. Un monde de paix et de beauté, jusqu'à ce que les eux le conquièrent et apportent la glande de la terreur. Imimio. La main expire.
L'Éternaute. Histoire d'une bande dessinée mythique. Épisode 1. L'Éternaute et son auteur. Merci à Laura Caraballo, Erwin Dejas, Léo Henry, Latino Imparato, José Muñoz, Miguel Rep. Voix, Magali Montoya. À suivre, Vestiges de l'Éternaute. Et l'Éternauta continuera.